VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Conakry, 14h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Au Nigeria, un triple attentat suicide a fait au moins 15 morts ce lundi lors d'une distribution alimentaire dans un camp de déplacés du nord-est du pays, épicentre des activités du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Il y a eu deux premières explosions à 11h10, heure locale, 10h10, temps universel, ce matin dans le village de Machalari, état de Borno. Des explosions qui ont fait 15 morts et 43 blessés, a rapporté un employé d'une organisation humanitaire sous couvert d'anonymat, en ajoutant qu'un autre kamikaze s'est fait exploser quelques minutes plus tard à proximité sans faire de victimes. Les trois kamikazes étaient des femmes, selon cet employé. En Côte d'Ivoire, le grand marché d'Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, ravagé dans la nuit de dimanche à lundi par un énorme incendie qui n'a pas fait de victimes. Le feu s'est déclenché vers 20h30, heure locale, étant universel, et a causé des dégâts matériels considérables, a indiqué la police, qui a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. Et puis en Guinée, après plusieurs jours de manifestations violentes contre le manque d'électricité à Boké, dans le nord-ouest du pays, le gouvernement a annoncé son intention de faire la lumière sur la mort de deux personnes dans cette ville. Le calme est maintenant revenu à Boké, mais les dégâts matériels sont importants. Plus de précisions avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
C'est le ministre guinéen de l'administration du territoire qui a fait le bilan. Deux morts, 70 blessés, dont 14 gendarmes, selon le général Bourima Kondé. Le bilan est lourd, conséquence des violences qui ont caractérisé le mouvement de colère. Des commerces pillés, deux camions de la gendarmerie nationale, les locaux de la compagnie départementale de la gendarmerie, des pick-up et des motos ont été brûlés, a dit le ministre guinéen. La liste des dégâts est longue. Le général Kondé a aussi fait cas des actes de vandalisme qui n'ont pas épargné le marché central de Boké, le bloc administratif régional et les véhicules de commandement du gouverneur et du préfet. Ces émeutes ont également immobilisé une centaine de véhicules, chiffre donné par le ministre Bourima Kondé, des véhicules en provenance de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Le gouvernement promet de faire toute la lumière sur ces émeutes, a indiqué le ministre guinéen de l'administration du territoire. Le général Bourima Kondé a aussi dit que trois groupes électrogènes sont en train d'être acheminés pour rétablir le courant électrique à Boké. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
En RDC, Kinshasa a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête après les incidents meurtriers de vendredi dernier entre les FARDC, l'armée nationale congolaise, et les ressortissants burundais à Kamanyola, dans la province du Sud Kivu, dans l'est du pays. Violences qui ont coûté la vie à 38 personnes, 37 burundais et un officier congolais. L'enterrement des victimes a eu lieu dimanche et certaines d'entre elles sont présentées par les Nations Unies comme des réfugiés et demandeurs d'asile. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction du porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende.
C'est le résultat d'enquête qui va nous donner des informations sur les auteurs de cette altercation entre la patrouille des FARDC et les personnes qui sont mortes ou blessées, et dont les amis ou les partenaires avaient provoqué la mort de l'officier des FARDC.
Donc on parle d'une réaction disproportionnée des forces de sécurité par rapport à des manifestants civils.
Permettez-moi d'être un peu surpris que l'on puisse demander une enquête et en même temps nous donner déjà les résultats d'une enquête qui n'a pas encore eu lieu. Je voudrais vraiment demander que l'on attende l'enquête pour conclure s'il y a eu une réaction disproportionnée ou proportionnée. Ça c'est la conclusion, c'est mettre la rue avant les bœufs.
Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, joint à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, les femmes ont réalisé une percée dans les postes sélectifs. Deux d'entre elles dirigent pour la première fois les conseils départementaux. C'est le résultat d'une sensibilisation accrue autour d'une loi accordant 30% des places aux femmes sur les listes électorales. Plus de détails avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Avec 17 femmes élues députées, alors qu'elles n'étaient que 12 à la dernière législature, la participation des Congolaises dans le pôle de décision progresse. Marie-Thérèse Bouvet, élue au Sénat, estime que le combat pour les droits politiques de la femme congolaise est loin d'être terminé.
13 déjà c'est bon, parce qu'au départ on n'était que 12, là on vient d'ajouter 2, c'est bon. En tout cas on est assez satisfait. Le combat on l'a toujours mené, hein, le combat d'être représenté partout. On ne peut pas baisser les bras, on continuera à mener le combat.
Deux femmes ont aujourd'hui pris la tête des conseils départementaux dans le pays, chose qui était impossible il y a encore quelques semaines. La ministre de la promotion de la femme, Nefer Inès Inga, fait un constat mitigé.
Ici est de souligner que l'on enregistre une légère progression du nombre de femmes élues tant au Sénat, à l'Assemblée nationale qu'aux différents conseils départementaux et municipaux. Ces résultats, bien que positifs dans l'ensemble, montrent que de nombreux efforts restent encore à accomplir en vue d'une représentativité équilibrée hommes-femmes dans les instances de prise de décision, surtout dans le domaine électif, où le Congo occupe jusque-là la 172e place dans le classement mondial de l'Union interparlementaire.
Plutôt optimiste, Didier Clotaire Boutindi, chef d'une association politique, appelle les femmes à se lever pour leurs droits.
Si la loi donne 30% aux femmes, c'est même les femmes de se lever. Ils disent que non, nous, on doit respecter quand même la loi. Donc, ils doivent aussi occuper leurs 30%. Donc, il ne faut plus attendre que ce soit les femmes qui ne parlent pas hier. Il faut que les femmes parlent aujourd'hui. La femme doit prendre des décisions elle-même.
Analysant globalement le problème, Rock Eloge Nzobo, un activiste des droits politiques et civiques, indique que c'est tout le système électoral du pays qui n'avantage pas les femmes.
On ne peut pas régler le problème de la femme tant que, justement, nous n'allons pas sur des bases démocratiques bien définies. Il s'agit des nominations où on décide de qui on peut mettre à telle place. Parce que vous voyez, il y a les forts taux d'abstention. Je refuse toujours de voir la légitimité de ces élections. Et il n'y a pas amélioration tant que nous n'allons pas revoir les fondamentaux même des principes de la démocratie, des principes de processus électoral, que ce soit la question des découpages électoraux, la question des listes électorales, la question de la commission indépendante électorale. Toutes ces questions doivent être débattues. À ce moment-là, lorsque nous aurons des résultats, on pourra évaluer de manière objective, de manière concrète.
Avec 246 femmes élues dans les conseils, la participation féminine dans la sphère de décision commence à prendre corps au Congo. Nguela Ngousou, Brazzaville, VO Afrique.
Nations Unies, le président américain Donald Trump ouvre ce lundi à New York une semaine d'allocutions, de débats et de rencontres bilatérales entre les 193 pays membres de l'ONU. L'Assemblée générale des Nations Unies débute par une initiative controversée sur la réforme de l'organisation. Jean-Roger Bion.
Les discours pour l'Assemblée générale annuelle de l'ONU commenceront demain mardi, mais le ballet diplomatique débute aujourd'hui même à 14h GMT par une cérémonie présidée par le président Donald Trump au cours de laquelle environ 130 pays endosseront une déclaration politique non contraignante en 10 points poussant l'ONU à se réformer. Le milliardaire américain qui avant son élection avait qualifié l'ONU de club où les gens passent un bon moment veut voir ses coûts fortement réduits. Cette approche principalement budgétaire heurte nombre des membres des Nations Unies. Selon certains diplomates, une réduction de moitié par exemple du budget du Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, qui dépasse 40% de la contribution américaine, le rendrait inopérant. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, s'est dit prêt à faire des économies, mais le chef de l'Organisation mondiale a mis en garde contre le risque de saper l'efficacité des missions de paix.
Proche-Orient, le groupe militant palestinien Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza depuis une décennie a amorcé une normalisation des relations avec le gouvernement du président palestinien Mahmoud Abbas. Une décision favorablement accueillie par le Fatah et aussi l'ONU. Timothée Donangmaï.
Le Hamas a annoncé la dissolution de son comité administratif mis en place en mars et perçu par le président Mahmoud Abbas comme un gouvernement parallèle. Il a appelé le Fatah à des discussions sur la réconciliation nationale et l'organisation d'élections générales. Avec l'économie de la bande de Gaza en ruine et seulement 4 heures d'électricité par jour, le mouvement islamiste a dit qu'il veut que le gouvernement d'union nationale du président Abbas assume immédiatement le contrôle de ce territoire. Le rapprochement entre les frères ennemis palestiniens fait suite aux pourparlers séparés tenus récemment au Caire par des délégations du Fatah et du Hamas avec les responsables du renseignement égyptien.
Et pour terminer, en Inde, la Cour suprême indienne examine ce lundi la contestation en justice par deux réfugiés Rohingyas de la décision du gouvernement indien de déporter des dizaines de milliers de Rohingyas qui ont cherché refuge dans le pays pour échapper aux exactions du gouvernement en Birmanie. Merci de votre attention.